Bonsoir, ils étaient déjà dans le collimateur du fisc. Vont-ils devoir rendre aussi des comptes aux autorités de la concurrence, déjà très actives hein, dans les cartels en tout genre? Oui, les GAFA, les Facebook, les Google, accusés de ne pas être réglo sur le marché de la pub en ligne, accusés de casser les prix, de profiter de leur puissance dans le search. Oh, le combat, il est pas simple, hein, et qui rappelle quelque part un peu le combat contre Microsoft qui avait duré une petite quinzaine d'années. Alors, est-ce que ça va durer aussi longtemps? Certains acteurs commencent à s'impatienter. Oui, un temps long pour répondre à cette question toute simple. Google nuit-il à la concurrence? Voici les décodeurs de l'écho.
L'écho s'éclaire sur BFM Business. Fabrice Lundy reçoit les décodeurs de l'écho.
Et parmi les décodeurs de l'écho, ce soir, la présidente de l'autorité de la concurrence, Isabelle De Silva, avec nous. François Monbouès, qui vient régulièrement nous voir chaque fois qu'il est question de tech, de GAFA. C'est le président de la Fédération du e-commerce et de la vente à distance, la FEVAD. Un acteur, un éditeur, Xavier Romatet, PDG du groupe Condé Nast. Vous connaissez Condé Nast, c'est un groupe américain qui publie notamment The New Yorker. Et puis en France, Vanity Fair, qu'est-ce qu'on a encore? On a Vogue, on a Glamour également. Et puis Erwan Lenohan, professeur en droit de la concurrence à Sciences Po, associé du cabinet d'avocats Alterman, qui publie régulièrement sur cette problématique de Google nuit-il à la concurrence. Alors, Isabelle De Silva, vous, l'autorité de la concurrence, eh bien, vous avez décidé de lancer des enquêtes préliminaires. Qu'est-ce que vous reprochez aux GAFA? D'ailleurs, quand on parle des GAFA, clairement, on parle de quoi? De Google, de Facebook? C'est eux que vous avez dans la ligne de mire?
Alors, sur la publicité en ligne, les deux acteurs qui sont ressortis comme ayant une position très très forte sur ce marché, c'est Google et Facebook. Donc, pour le moment, nous avons terminé un travail de près de 2 ans sur le secteur de la publicité en ligne. Donc, c'était une première phase importante qui consistait à comprendre le marché, voir ce qui s'y passe, quels sont les acteurs importants, comment ça fonctionne. Et donc maintenant, nous entrons dans une nouvelle phase puisque le rapporteur général de l'autorité va ouvrir des investigations préliminaires pour ensuite ouvrir des enquêtes s'il estime qu'il y a des pratiques contraires au droit de la concurrence.
Qui pourrait donner lieu ensuite à de grosses amendes. On rappelle, ça peut être 10% du chiffre d'affaires.
Tout à fait, le maximum est très important. Et on a vu récemment, par exemple, la Commission européenne qui a condamné Google dans l'affaire Google Shopping à une sanction de 2,4 milliards d'euros. Donc ça peut monter effectivement à des très gros montants.
Grosse, grosse amende. La dernière, c'était Intel. Hein. Juste 1 milliard, justement. Oui, on parle souvent des cartels que vous délogez, que vous pourchassez, le cartel des croquettes, des ascenseurs, des endives, des lessives. Tout ça, on situe très très bien. Ça parle à peu près, mais est-ce qu'on peut parler d'un cartel, des algorithmes? Ça existe, justement? Ça se mesure comment? Ça s'apprécie comment, cette histoire?
Alors, c'est vrai qu'avec le numérique, on entre dans un nouveau monde. Donc, c'est vrai que les cartels des industriels ou des distributeurs, c'est quelque chose qu'on connaît bien parce que on sait comment ça fonctionne depuis plusieurs années. Avec les algorithmes, ça change un petit peu la donne. Donc, on a déjà vu des mécanismes de prix sur des sites de vente en ligne qui pouvaient être qualifiés d'entente. Donc, ça existe déjà.
Vous parlez clairement de cartel des algorithmes. Vous reprenez cette image ou pas?
On peut l'utiliser parce que finalement, l'algorithme, c'est un moyen, mais le but, il reste le même lorsqu'il y a cartel, c'est-à-dire mettre d'accord pour neutraliser la concurrence et, par exemple, décider qu'on va augmenter les prix dans une certaine direction. Donc, l'algorithme, c'est un moyen. Donc, ça n'empêche pas l'application du droit de la concurrence. Donc, nous ne sommes pas démunis. Encore faut-il bien savoir comment les algorithmes fonctionnent. Et donc, ça nous conduit à changer nos méthodes d'investigation. On a toujours les outils juridiques, on n'est pas démunis, mais il faut encore que nous investissions dans ce domaine pour être au niveau, y compris sur le plan technologique, de ces nouveaux moyens de mise en œuvre de cartels.
Il va falloir apprendre les maths, clairement, Isabelle De Silva, non?
Alors, notre but, c'est pas d'avoir le même niveau de performance qu'un ingénieur de Google ou de Facebook, c'est pas le sujet. C'est d'abord de bien comprendre comment ces mécanismes fonctionnent, et ensuite, il y a des moyens qui existent. Par exemple, lorsque la Commission européenne a sanctionné Google pour différentes pratiques, elle s'est fondée sur l'effet des algorithmes. Donc, elle a analyser des énormes stocks de données pour voir comment finalement les changements de pratiques de Google sur le sujet qui était examiné par la commission, comment est-ce que ça avait impacté les pages que voyaient les internautes et quel effet ça avait eu sur les entreprises qui s'étaient trouvées pénalisées, donc c'était les comparateurs de prix. Donc pour répondre à votre boutade, nous n'écrirons jamais les algorithmes aussi bien que les ingénieurs de Google, c'est pas le but. En revanche, bien comprendre comment ces algorithmes fonctionnent et être capable de détecter les pratiques, c'est le nouvel enjeu. Il n'est pas simple, mais on met vraiment beaucoup d'efforts pour y arriver.
Ouais, il va falloir s'adapter à toutes ces nouvelles technos. Erwan Le Nohan, professeur en droit de la concurrence à Sciences Po, comment Google et Facebook empêchent-ils quelque part la concurrence d'autres acteurs d'énergie?
C'est toute la question que l'autorité de la concurrence aura probablement l'occasion d'explorer dans les années qui viennent et qui a déjà été explorée par la Commission européenne, comme on vient de le rappeler. Là, on ne parle pas tant d'entente que d'abus de position dominante. C'est-à-dire, les opérateurs sont tellement gros que, pour schématiser, le droit leur impose des obligations spécifiques. Ils n'ont pas le droit de tout faire parce que, en compte tenu de leur position sur le marché, ils pourraient tuer la concurrence. Et donc, ce qu'a regardé la Commission européenne, ce que regardera peut-être l'autorité de la concurrence, c'est voir si les pratiques aujourd'hui mises en œuvre par ces opérateurs nuisent à la concurrence.
De quelle manière concrètement? Ça veut dire quoi? Par exemple, je le disais à travers le search, c'est-à-dire donc Google, la barre, on va taper un mot, on va taper une phrase, quelque part. Ils profitent de leur puissance, ils profitent de leur réseau, ils profitent de leur force dans le e-commerce.
Mais alors, de mémoire, mais je parle sous le contrôle de la présidente de l'autorité de la concurrence, là, on est sur l'avis qui vient d'être rendu et sur la publicité display, donc il y a différentes toutes les bannières qui s'affichent quand on va sur un site, et il y a un certain, à la fin de l'avis, il y a un certain nombre de pratiques qui ont été portées à la connaissance de l'autorité de la concurrence. De mémoire, il y a des questions de ventier. En gros, c'est, vous avez recours à un service, on vous oblige à en prendre un autre. Il y a des questions, je me souviens bien, d'effet de levier, c'est-à-dire dire que parce qu'un opérateur est fort sur un marché, il peut aussi influer un autre marché. Ça, c'est des questions qui, dites comme ça, semblent très simples. En tout cas, à examiner, c'est très compliqué.
Mais sans preuve, voilà, c'est ça.
C'est l'instruction des autorités de concurrence et de régulation qui vont permettre d'amener des preuves.
Ça va prendre du temps, tout ça.
On est dans des secteurs qui évoluent très vite. Où la concurrence sous de nombreux aspects est très nouvelle, et je crois qu'on a là un défi aussi à la fois pour les opérateurs et pour les autorités de concurrence, c'est que une autorité de concurrence elle juge en droit et à un instant T, parce qu'il est difficile en droit de dire j'ai regardé dans une boule de cristal et donc la concurrence va évoluer de telle et telle manière. Et en même temps, les parties, les Facebook, Google, les opérateurs vont faire valoir que la dynamique est très rapide. Et donc il y a toute une question qui est à la fois économique et juridique qui va s'engager, qui est à mon sens passionnante, mais qui est aussi très complexe. On l'a bien vu par exemple dans le cas de Google, la Commission européenne a sanctionné. Ça a été une longue affaire également. Vous parliez de Microsoft, Google, ça a été long. Il y avait le précédent commissaire Joaquín Almunia à un moment avait pensé laisser tomber l'affaire. Il y avait un long dossier assez intéressant dans Bloomberg qui expliquait comment le gouvernement allemand avait redonné un coup d'impulsion pour être sûr que l'instruction reprenne. Ça a conduit à une sanction de Google. Aux États-Unis, les autorités de concurrence, la FTC, a abandonné des poursuites estimant qu'elle n'avait pas suffisamment de preuves. Donc on est là dans un débat juridique économique qui est très intéressant et qui aussi est au cœur des dynamiques concurrentielles de l'économie aujourd'hui.
Ouais, ça va durer une quinzaine d'années, Isabelle De Silva. Vous avez le temps nécessaire, vous avez les reins solides, justement. C'est la nouvelle affaire Microsoft des années 2018-2020, cette histoire contre Google. Alors, vous aurez du courage ou à un moment vous allez dire on baisse les bras quelque part, comme peut-être la FTC aux États-Unis?
Alors, je crois que le courage, on n'en manque pas, et aussi la volonté de traiter ces sujets. La volonté, c'est un élément important. On a cité le cas de la Commission européenne. Avec l'arrivée de Margrethe Vestager, elle a donné une nouvelle impulsion à ce cas Google Shopping. Et finalement, en 2 ans et demi, elle a réussi à, mener cette instruction, arriver à une décision.
Je rappelle juste que c'était que cette affaire Google Shopping, on n'a pas tout ça en tête. C'est Bruxelles qui reprochait à Google d'avoir abusé de sa position dominante sur les moteurs de recherche au profit de son comparateur de prix. tout ça depuis 2008 dans les résultats, au détriment par exemple d'un français comme le français Quelcoût. Google dit, attendez, Google Shopping, c'est surtout un service d'annonce publicitaire, on peut pas nous accuser de position dominante. Les internautes, ils effectuent beaucoup de comparaisons de prix directement sur les sites de vente en ligne, donc quelque part, bah voilà, on est un de plus, un de moins, on n'a rien à se reprocher. Voilà, c'était ça un peu l'argument.
Tout à fait. Donc je crois qu'il y a un élément qui est la volonté politique de traiter ces sujets. Donc moi, j'ai la conviction qu'au niveau national, nous avons des outils, puisque c'est l'un des débats. On demande, mais finalement, est-ce que les autorités nationales sont toujours pertinentes? Est-ce que le niveau n'est pas mondial ou européen? Donc je dis qu'il y a des choses qui peuvent se faire au niveau national, parce que tous les marchés numériques ne sont pas identiques d'un pays à l'autre. Et ensuite, bien sûr, la Commission européenne a décidé d'agir très fortement. C'est une priorité pour elle. Et je crois que l'un des atouts dont nous disposons, c'est vraiment ce modèle de régulation communautaire en matière de concurrence qui fonctionne extrêmement bien. Je pense que c'est vraiment une chance pour traiter de ces sujets, parce que dans certains cas, voilà, tous ensemble, nous partageons nos efforts et je dirais
vous
vraiment de façon quotidienne.
Vous travaillez beaucoup avec vos homologues européens,
nous travaillons en réseau quotidiennement sur ces sujets,
etc.
Donc nous suivons de près ce que fait l'Allemagne avec le dossier Facebook, qui est également prioritaire en ce qui concerne l'autorité allemande.
Pour votre homologue allemand, Facebook abuse de sa position dominante en collectant des masses de données d'utilisateurs à leur insu. Voilà, ça c'est le combat des Allemands.
Voilà, donc ça c'est le dossier phare en ce moment mené par l'autorité de concurrence allemande qui se fonde sur les conditions dans lesquelles Facebook utilise les données de ses internautes, et au quotidien avec la Commission européenne sur ce sujet de la publicité en ligne. Il est vraiment, je crois, important au niveau européen. On voit que c'est quand même un marché qui a une croissance incroyable, avec des taux de croissance à deux chiffres et une croissance qui s'accélère depuis plusieurs années. Et on voit des évolutions majeures qui affectent des secteurs importants de l'économie, comme les médias traditionnels. On a vu que il y avait une croissance très importante, notamment, par exemple, la publicité sur les réseaux sociaux. Mais sur d'autres segments de la publicité, des parts de marché relatives qui baissaient. Donc, c'est des mouvements très importants. Et l'autre chose qu'on peut dire, c'est que dans cet examen que nous avons mené pendant 2 ans, nous avons eu beaucoup de retours des acteurs du marché qui nous ont signalé des problèmes. Donc il faut regarder à tête reposée ces différents problèmes et, si nous avons matière pour ce faire, ouvrir des procédures contentieuses avec l'objectif d'aller vite. Parce que je crois qu'il est aujourd'hui, sur ces sujets numériques, nous devons agir le plus vite possible.
La procédure normale, c'est 2 ans. Il y en a qui ne veulent pas attendre 2 ans, Isabelle.
Je pense que 2 ans, c'est déjà un bon délai. J'indique aussi que nous avons un outil qui s'appelle les mesures conservatoires que nous sommes parmi les seuls en Europe à utiliser. Les autres États ne l'utilisent pas autant que nous. Et nous pouvons, en 6 mois, prendre des décisions dans le cadre des mesures conservatoires. Donc nous avons des outils. C'est vrai que les entreprises parfois hésitent à nous saisir parce qu'elles sont dans des situations compliquées, elles ont peur de mesures de rétorsion.
Elles ont peur des géants du net.
Elles sont en relation d'affaires avec tous ces géants du net et donc elles sont dans une situation compliquée. Donc nous allons regarder à tête reposée ce qui peut être fait, mais dans certains cas, peut-être que nous aurons des demandes de mesures conservatoires et nous les traiterons dans un délai de quelques mois.
Et c'est vrai que les agences médias, et je pense à Raphaël Dandréis qui préside l'UDECAM, je pense aux annonceurs, je pense à Jean-Luc Chétrit également, qui craignent un risque sur la diversité des médias et donc la menace d'une raréfaction de choix pour les annonceurs. Et d'ailleurs Jean-Luc Chétrit parlant clairement d'opacité dans ses publicités en ligne. François Monboise, les problèmes justement dont parlait Isabelle de Silva, qu'est-ce qui donne de la force, de l'avance justement pour Google, les autres, c'est quoi? C'est le nombre d'internautes touchés, les technologies publicitaires utilisées? Puis je demanderai après à Xavier Romatin, lui, quel si reproche le... il fait.
Leur plus grande force, c'est le temps passé par les internautes sur ces sites. Médiamétrie vient de donner les chiffres 2017. En 2017, les Français ont passé 36% de leur temps Internet sur les GAFA. Donc c'est ça qui leur donne de la richesse, c'est que les gens passent énormément de temps sur les sites.
Un tiers du temps passé sur Internet, c'est sur les GAFA.
Voilà. Et les sites, c'est des sociétés exceptionnelles, donc elles font tout ce qu'elles peuvent pour garder les gens sur leur site longtemps. Et pendant tout le temps, les gens sur le site, elles acquièrent de la connaissance, elles proposent des services, etc. C'est un sujet très compliqué, les GAFA. Le problème, c'est que d'habitude, dans le business, on a des solutions. Là, on n'a pas beaucoup de solutions. C'est-à-dire que c'est des sociétés très grosses, les plus grosses capitalisations mondiales, qui sont très agiles, qui changent à une vitesse folle. Enfin, quand vous voyez, quand vous comparez Jeff Bezos et Alexandre Bompard, pour bouger Carrefour, il faut une énergie 1000 fois plus grande que pour bouger Amazon. Et ce sont des sociétés, aussi, vous l'avez un peu dit, qui sont un peu le bras armé des États-Unis. C'est-à-dire que nous, on se réjouit quand Emmanuel Macron va en Inde, il vend Dassault, il vend Engie, il vend Suez, EDF,
Safran, etc.
Obama a clairement dit, si vous faites un règlement européen, c'est que vous êtes jaloux, Facebook n'est pas européen, sinon vous le feriez pas. Ce qui est peut-être un peu vrai, je sais pas. Mais enfin, pour les présidents américains, ce sont des sociétés américaines. Et donc, ça va pas être facile de les déloger parce qu'elles sont excellentes, ces sociétés. Et elles ont... En plus, le problème juridique, c'est parfait ce que fait l'autorité de la concurrence. Il faut vraiment le faire. Et au niveau national, il faut surtout pas dire on attend l'Europe et on ne fait rien, parce que là, on n'avancera pas. Non, il faut avancer par pays. Mais la grosse difficulté, c'est que les marchés sont fluctuants. Vous le disiez au début, par rapport au marché des ascensoristes ou de l'endive ou de la lessive, c'est clair. Là, ce sont des sociétés qui bougent tout le temps, qui ouvrent des nouveaux marchés. Donc, entre le
qui
temps,
s'engouffrent dans les vides juridiques aussi, bien sûr. Hein,
oui, puis d'un point de vue business. Elles voient des opportunités business.
Partout,
donc, elles ouvrent.
Elles sont agiles.
On démarre une enquête et deux ans après, tout a changé.
C'est fini.
Et n'oubliez pas le taux de croissance. Amazon, que je connais le mieux, c'est plus 40% par an. C'est-à-dire qu'ils doublent en deux ans. Entre le début de l'enquête et la fin, ils ont doublé. Donc, les gens qui peuvent pas attendre, c'est les concurrents, parce que, entre-temps, ils... ou les fournisseurs pour ces sociétés. C'est pas forcément les concurrents parce qu'ils ont pas vraiment de concurrents qui fassent la même chose, c'est des fournisseurs.
Tout juste. Xavier Romatet, donc Condé Nast, Vogue, Vanity Fair, Glamour, quels sont les reproches que vous faites à Google, aux autres, vous Xavier Romatet? Est-ce que vous constatez un déséquilibre entre les géants américains du net et puis les autres?
Oui, évidemment, factuellement, il y a un déséquilibre. Google et Facebook doivent représenter aujourd'hui plus de 70% du marché de la publicité digitale. Et capte 85% de la croissance. Donc rien que ces deux chiffres montrent qu'il y a évidemment un déséquilibre absolu. Et plus ça va, plus il y a un déséquilibre. Maintenant, comme le disait François, la relation avec ces géants est complexe. Les Américains appellent ça une relation de friends enemies. C'est-à-dire qu'on a besoin d'eux parce que aujourd'hui, les médias ont besoin des plateformes numériques pour accroître leur audience et pour toucher des gens qui se sont désintéressés des circuits de distribution
classique,
traditionnels.
Bien sûr.
Le papier, la télévision linéaire, etc. Donc on a besoin d'eux.
Donc quelque part partenaire, mais...
Donc on est partenaire parce qu'ils nous offrent des solutions de partenariat qui sont extraordinairement efficaces. Et on a d'ailleurs avec eux des deals locaux, mondiaux, qui sont extrêmement efficaces et qui nous permettent effectivement de toucher des gens que nous ne toucherions pas sans eux. Mais d'un autre côté, ils nous captent nos contenus, qu'ils ne nous valorisent pas, qu'ils ne nous payent pas. Or, aujourd'hui, notre métier, pour faire votre métier qui est un métier de journaliste, il faut de la séniorité, il faut de l'expérience, il faut vérifier les faits, il faut faire les enquêtes. Ça coûte cher. Or, de moins en moins, nous avons les moyens. Et donc, on développe sur ces plateformes une masse d'informations qui sont comparées les unes avec les autres, sans aucune perspective, sans aucune vérification, et qui font qu'aujourd'hui, il y a une espèce d'amalgame entre tous les faits. Or, tous les faits ne se valent pas. Toute la description des faits ne se vaut pas. Toutes les perspectives ne sont pas les mêmes. D'où le débat sur les fake news, etc. Donc on est dans une espèce de relation où on a besoin d'eux, c'est un mal nécessaire.
Partenaire, mais en même temps, sérieux concurrent.
Mais évidemment sérieux concurrent, puisque aujourd'hui, en utilisant nos contenus, ils captent une population qui reste chez eux et qui valorise par de la publicité. Donc on est dans une situation qui est une situation extraordinairement complexe, où effectivement, il n'y a pas une solution.
Et, tout à l'heure, Isabelle de Silonne disait, bon, on n'a pas encore reçu beaucoup de plaintes. En tout cas, il y a les demandes pressantes des entreprises du secteur. Parce que certaines peuvent avoir peur, justement. Vous avez peur? On peut avoir peur, justement, de ces géants du net?
Disons qu'on est dans des situations qui sont des situations qui sont extraordinairement disproportionnées. Aujourd'hui, un média ne peut pas se passer de Google ni de Facebook.
Bien sûr.
Google et Facebook peuvent parfaitement se passer d'un média.
Tout juste.
Donc aujourd'hui, on a besoin d'eux, ils ont moins besoin de nous, donc ça rend le rapport de force beaucoup plus compliqué. Or le business, c'est une question de rapport de force. Et donc aujourd'hui, il leur est favorable. Donc est-ce qu'on a peur? On peut pas dire qu'on vit sous la terreur. Maintenant, ce sont des entreprises, et comme le disait François fort justement, qui sont excellentes. Et donc, leur excellence est un facteur de croissance pour eux et évidemment un facteur de fragilisation pour nous. Parce que plus ils ont des moyens, plus ils sont excellents. Plus ils sont excellents, plus ils vont nous concurrencer. Moins on aura de moyens et moins on pourra aller vers cette excellence. Donc c'est là une difficulté absolument majeure de ce secteur.
Xavier Romaté, c'est bien dit, à la tête du groupe Condé Nast. Erwan Lenohan, avocat associé chez Altermind.
Voilà, je voulais juste apporter deux précisions au regard du droit de la concurrence, parce que le fait qu'il y ait un déséquilibre en droit de la concurrence, c'est pas un problème. Le problème, c'est que c'est-à-dire que le fait que vous ayez un opérateur très gros et d'autres petits, c'est pas en soi un problème.
Non.
C'est que le fait que ce soit très gros, ça leur impose des responsabilités particulières. La question que font, l'argument que feront valoir ensuite les Google, Facebook, c'est que s'ils sont très gros, c'est justement parce qu'ils rendent ces services extraordinaires, c'est parce que les consommateurs y vont. Vous disiez que 36% des gens passent 36% de leur temps
sur
Google
ou
Facebook, n'y est contraint. C'est parce que on y trouve notre intérêt. Et justement, le rôle du droit de la concurrence, c'est pas de préserver les concurrents, c'est de préserver la concurrence. Et de ce point de vue-là, il y a à la fois, d'un point de vue théorique, il y a des débats qui existent pour savoir si moins d'opérateurs, ça fait nécessairement moins de concurrence. C'est pas évident. Est-ce que la concurrence entre Facebook et Google, ça fait, si les deux opérateurs sont concurrents, ça peut faire plus de concurrence que si on a plein de petits entre eux. Et un autre point sous-jacent des échanges qu'on a, c'est qu'il faut faire une distinction entre ce que peut le droit de la concurrence et ce que peut la régulation. Ouais. Le droit de la concurrence, il est là en grande partie, c'est la réforme de contrôle, côté le contrôle des concentrations, pour sanctionner des pratiques illégales. Quand on parle des sujets dont vous parliez à l'instant, les fake news, etc., on est, il me semble, en dehors du champ du droit de la concurrence. On est dans de la régulation pour dire ex ante, comment est-ce qu'on doit, est-ce qu'on peut, est-ce qu'on doit avoir des normes pour encadrer les pratiques de ces opérateurs.
Non, mais ça, c'est pas son affaire, Isabelle de Silva. Là. Elle va pas gérer les fake news et ce qui se passe avant, bien sûr.
Je crois pas.
Oui, Isabelle de Silva, position dominante, mais au final, y a-t-il abus de position dominante ou pas de la part de ces Google, Facebook? Alors, vous n'allez peut-être pas me donner la réponse tout de suite, bien sûr, mais.
Alors effectivement, je ne vais pas vous donner la réponse aujourd'hui. En tout cas, ce qui est important, c'est que le premier temps de l'analyse, c'est le poids relatif des acteurs. Et ce qui ressort de notre avis, c'est le poids écrasant de deux acteurs, donc dans la croissance, dans la valeur.
Part de marché, on le disait, Xavier Romaté nous parlait de 70%, c'est ça, 70%.
Tout à fait, c'est les chiffres qu'on retient dans notre avis. Et alors ce qui est intéressant, c'est qu'on a fait une première analyse préliminaire finalement de quels sont les avantages concurrentiels de ces deux acteurs. Donc on a des premiers éléments qu'on livre au public. Et parmi les avantages concurrentiels majeurs qui ressortent, c'est l'accès aux données. Donc ça, c'est un premier élément, puisque un élément qui n'est pas toujours connu, qui commence à l'être et à faire débat, c'est la masse de collecte de données qui en permanence, quand on est sur Internet, est faite non seulement par le site sur lequel on est, mais aussi par d'autres sites qui ont placé des cookies et qui peuvent recueillir une masse de données considérable sur quel est l'internaute, quelle est sa CSP, quel est son comportement d'achat, quels sont ses identifiants, qu'est-ce qu'il fait sur Facebook. Donc une masse et une collecte de données considérable. Et toutes les données ne se valent pas. On sait qu'il y a des données qui ont une valeur supérieure aux autres. Par exemple, les données de ce que l'on recherche sur Google Search, c'est une donnée qui a beaucoup d'intérêt, parce que si je tape sur Google Search grille-pain, peut-être que ça veut dire que je vais être sur le point d'acheter un grille-pain dans les minutes qui suivent. Donc, c'est pour vous donner un exemple, mais il y a des données qui ont une valeur toute particulière, par exemple, quand on fait de la vente en ligne. Donc ça, c'est un élément qui
Ça, c'est un élément que vous allez prendre en compte.
En tout cas, c'est un élément qui ressort de notre analyse, parce que il y avait depuis quelques années un débat théorique sur est-ce que les données ont une valeur concurrentielle ou bien est-ce que les données sont partout. Tout, il suffit de les trouver, finalement, tout le monde y a accès. Donc ça, c'est un débat qui est présent depuis plusieurs mois. En tout cas, ce qui ressort de notre étude, c'est que toutes les données ne se valent pas et que l'accès à ces données, il n'est pas ouvert aujourd'hui à tous. Par exemple, les données du moteur de recherche de Google, elles ne sont pas accessibles à tout le monde qui souhaiterait y accéder directement. Donc ça, c'est un premier point. L'autre chose qui est ressortie, c'est la valeur de ce qu'on appelle les inventaires. C'est-à-dire accéder à certaines pages sur Internet, par exemple, envoyer une publicité sur Facebook, sur le réseau social Facebook. Ça, c'est aussi des inventaires qui ont beaucoup de valeur. Et donc, c'est Google et Facebook ont ces deux avantages d'avoir accès à des données très riches, très complète, et aussi d'avoir accès à des inventaires qui sont parmi les plus recherchés. Parce que quand on est annonceur, quand on est Peugeot, L'Oréal, on a très envie d'envoyer des publicités sur ces pages-là, donc ces inventaires-là. Et donc ça donne un avantage. Et le troisième élément, c'est la stratégie d'intégration verticale de ces acteurs. Donc Facebook et Google, ils ne font pas que vendre des pages de publicité. Ils interviennent aussi sur les métiers d'intermédiation technique qui sont complètement nouveaux. On n'en a pas encore parlé, mais il y a quand même une grande nouveauté depuis quelques mois sur cette publicité en ligne, c'est ce qu'on appelle le programmatique. Voilà. Donc c'est la promesse qu'on vend une publicité d'une qualité supérieure parce qu'elle est ciblée.
Pub adressée, on n'envoie pas ciblée,
une publicité sur un poste de télévision à n'importe qui, mais on l'envoie à quelqu'un qui a fait une recherche sur Google sur un poste de télévision et qui par ailleurs a certaines caractéristiques qui font qu'on estime qu'il a plus de chances d'aller acheter
sur
tel ou tel site. Voilà, donc ça c'est quand même une révolution. Et donc on est sur des nouveaux métiers de l'intermédiation technique qui, là encore, procure des avantages concurrentiels spécifiques.
Un mot, François Mombas, et puis on revient juste après avec les décodeurs de l'écho sur BFM Business.
Non, c'est ce qui vient d'être dit est tout à fait vrai. C'est là qu'on voit aussi l'importance de la taille. C'est-à-dire que le seul marchand en Europe qui peut avoir des données dans tous les pays, c'est Amazon. Et le seul marchand qui peut, de lui-même, sans demander aux gens, corréler des ventes de textiles, de musique, d'aspirateurs, de machines à laver, etc., c'est Amazon.
C'est Amazon.
Parce qu'ils vendent tout à tout le monde, et c'est le seul. Et donc la crainte, on n'en a pas encore parlé, c'est qu'il y a un règlement de protection des données qui va entrer en vigueur d'ici quelques mois, qui va en gros obliger les marchands à demander beaucoup plus l'autorisation des gens sur aller donner les données à des tiers. Donc le risque, c'est que beaucoup de gens disent bah non. Et donc le seul qui n'a pas besoin de demander l'autorisation, c'est Amazon. C'est Amazon, parce que c'est chez lui que ça se passe.
Ouais, on verra d'ailleurs, vous nous direz dans un instant si c'est le prochain sur la liste, le RPGD, le règlement RGPD, règlement général de protection des données qui va entrer en vigueur le 25 mai de mémoire. Il va avoir une influence ou pas sur votre procédure, sur les délais ou pas, Isabelle De Silva, vous à la tête de l'autorité de la concurrence?
On a souhaité effectivement, dans notre avis, pointer ce sujet de la protection des données, parce qu'il y a eu des avancées majeures qui sont en cours. Il y a le RGPD qui va bientôt entrer en vigueur, et puis il y a le règlement e-privacy qui va instituer d'autres règles spécifiques qui visent finalement à limiter, si on veut simplifier beaucoup, tout ce qui est le ciblage de l'internaute. Et donc ce qu'on a souhaité pointer dans notre avis, c'est pas de dire que ce sont des mauvaises évolutions, parce qu'on sent qu'il y a vraiment une préoccupation très forte de l'internaute sur le suivi dont il fait l'objet. Il n'est pas toujours content de savoir qu'on sait tout ce qu'il fait, qu'il y a une sorte de transparence sur Internet. Mais ce qu'on a voulu pointer, c'est que ça a des effets sur le jeu concurrentiel. Donc ces règles qui correspondent sans doute à une nécessité, donc l'objectif, on ne peut que le partager. Il faut faire attention à ce que ça ne favorise pas certains acteurs au détriment des autres.
On continue dans un instant avec les décodeurs de l'écho sur BFM Business. Google nuit-il à la concurrence? Amazon nuit-il aussi à la concurrence? Question que je poserai aussi dans un instant. À tout de suite.
L'écho, c'est clair sur BFM Business. Fabrice Lundy reçoit les décodeurs de l'écho.
Ouais, c'est Isabelle De Silva, la présidente de l'autorité de la concurrence, hein, qui va donc engager un certain nombre de lancer des enquêtes préliminaires, hein, parce que Google, parce que Facebook, profiterait de certains avantages justement pour ne pas forcément être réglo dans le marché de la publicité en ligne. Tiens, c'est votre homologue de l'ARCEP qui était là il y a quelques mois dans ses décodeurs de l'écho sur BFM Business qui s'interrogeait cet automne. La question n'est pas faut-il démanteler Google, mais comment démanteler Google? Bon, il n'y a pas moins radical qu'un démantèlement. Qu'est-ce que vous répondez à ça, vous, Isabelle De Silva?
Alors, là-dessus, je me sépare sur ce point de Sébastien Soriano. Alors, je pense qu'on a beaucoup d'éléments d'analyse en commun. Aujourd'hui, je pense que la démonstration n'est pas faite que c'est la seule solution de démanteler Google, Facebook. Et puis d'ailleurs, comment le ferait-on? Ce ne serait pas très simple. Donc, je crois qu'on a vu dans le passé des expériences où on a dissocié des trusts. Souvent, c'était lié à un débat économique et politique, hein, sur le pouvoir de ces trusts et le fait qu'ils contrôlaient les centres de décision américains, par exemple. Donc, ça correspond toujours à des moments particuliers. Ce qui est intéressant, je trouve, aujourd'hui, c'est de voir que le débat, finalement, sur ces grands acteurs qu'on dit les GAFA, en même temps, on a plusieurs débats parallèles sur leur poids économique, leurs avantages et leur position dominante, le cas échéant. Le débat sur les fake news, on en parlait tout à l'heure.
Xavier Robatet,
la façon dont ils font face dans, par exemple, ce qui s'est passé pendant les campagnes électorales avec l'utilisation des réseaux sociaux. Donc, finalement, il y a une sorte de mise en cause généralisée sur différents aspects. Ouais. Et je crois que ça montre bien que les États ont toujours un rôle à jouer. Alors, il faut traiter chaque problème, à mon avis, spécifiquement. Donc, les fake news, le gouvernement a pris des initiatives sur les aspects campagne électorale. On a aussi le sujet fiscal, qui, pour mon point de vue, est absolument essentiel en termes de rétablissement des conditions de concurrence.
On attend très prochainement l'avis de l'OCDE et de Pascal Saint-Amand, de Pierre Moscovici au nom de l'Union européenne, au nom de la Commission. Alors, est-ce qu'on fait assez pour taxer plus efficacement les géants du net en Europe ?
C'est un sujet majeur. Il est compliqué. Ça fait plusieurs années qu'on essaie de trouver la martingale. Je pense que la détermination qu'a mis le gouvernement français à essayer de porter ce sujet au niveau européen est vraiment bienvenue. Et j'espère qu'on arrivera à avancer avec des décisions qui ont l'air de bien se présenter au niveau européen. Le sujet fiscal, on l'a aussi traité par l'aspect aide d'État. Ça, c'est l'action de la commissaire européenne à la concurrence qui a aussi même marqué un changement dans la position des autorités publiques et notamment de concurrence vis-à-vis du sujet fiscal. C'était quelque chose de très innovant. Donc on a ce nouveau front de bataille. Peut-être qu'il faudra aller plus loin en termes d'unification fiscale. Et vous le mentionniez, je crois que les travaux de l'OCDE sont extrêmement intéressants et porteurs peut-être de solutions pérennes.
Tout juste.
Donc la taxe sur le chiffre d'affaires, c'est un premier temps. Il y aura peut-être d'autres épisodes, mais déjà, si on arrive à faire quelque chose, ça sera un premier temps très important.
Mais juste, on a l'impression que ce soit le fisc ou vous, que les géants du net, ils profitent de vide juridique. On le disait tout à l'heure. Il faut revoir la loi. La loi, elle n'est pas adaptée. Tiens, par exemple, quand un Facebook ou un Google rachète une start-up prometteuse, et vous avez souvent repris l'exemple de WhatsApp racheté par Facebook, qui ne fait pas forcément du chiffre d'affaires. Donc, théoriquement, vous n'avez pas forcément la cohérence, en tout cas la pertinence, en tout cas, de vous en mêler. Est-ce qu'il le faudrait justement dans ce cas-là?
Alors c'est un sujet sur lequel on va se prononcer dans quelques semaines, parce qu'on a ouvert une concertation sur ce point, savoir est-ce qu'il faut créer dans la loi française ce qu'ont créé les Allemands et les Autrichiens il y a quelques mois, puisqu'ils ont créé un nouveau cas de contrôle, typiquement dans ce cas-là, donc Facebook, WhatsApp, avec l'idée qu'on se fonderait sur le seuil de transaction.
Tout juste.
Donc il y a cette option.
Et non pas le chiffre d'affaires de WhatsApp.
Voilà. Il y a des entreprises qui n'ont pas de chiffre d'affaires, mais qui ont une valeur économique considérable. On voit ça aussi dans les biotech, par exemple, une entreprise qui développe un nouveau vaccin, un nouveau médicament, elle n'a pas de chiffre d'affaires, elle peut avoir une valeur économique importante.
Méga potentiel, ouais.
Donc le moment venu, je pense que le choix qu'on devra faire, c'est la proportionnalité entre un nouveau cas de contrôle des concentrations, c'est une option qui est sur la table, et puis peut-être de ne pas pénaliser non plus les opérations économiques dans ce secteur. Donc ça sera un choix qu'on présentera le moment venu au gouvernement.
Bon, Xavier Romatet, Condé Nast, Vogue, Vanity Fair, Glamour.
Moi, il y a un sujet de préoccupation aussi, qui est le sujet des données. On a parlé de la transposition sur le marché français de la directive européenne qui aura lieu le 26 mai. Mais il y a surtout derrière un débat aujourd'hui au Parlement et à la Commission qui concerne ce qu'on appelle e-privacy. Alors e-privacy, c'est quoi ? C'est l'obligation qui va être faite pour tous les sites d'avoir le consentement préalable de celui qui ira visiter le site sur l'utilisation de ces données. C'est-à-dire que quand vous allez visiter le site du Monde, du Figaro, le site d'un e-marchand ou de Vogue, vous allez devoir préalablement dire « Est-ce que j'accepte aujourd'hui que les données, via les cookies, soient utilisées ou pas ?» Et donc, c'est le consentement préalable. Or, aujourd'hui, qui va s'abstraire de cette loi parce qu'ils ne sont pas concernés ? Les GAFA. Et donc, sous prétexte aujourd'hui, et qui est un prétexte qui est tout à fait judicieux et auquel nous aspirons.
Ça veut dire qu'ils ne sont pas concernés par cette réglementation
européenne ? Ils ne sont pas concernés par cette réglementation puisqu'ils agissent, ils évoluent dans un univers qui leur est propre. Quand vous allez sur Facebook, une fois pour toutes, vous donnez vos coordonnées. Et donc à chaque fois que vous allez sur Facebook, vous n'avez pas besoin de dire
si je veux ou je ne veux pas.
Quand vous allez sur Vogue ou quand vous allez sur la Fnac ou sur Darty, à chaque fois vous allez dire eh bien est-ce que cette fois-ci et au cours de ma visite, j'accepte que mes données soient utilisées ou pas.
Erwan Lenoir.
Mais ce que je trouve intéressant dans ce qu'on dit, c'est qu'il y a un réflexe politique qui dit qu'il faut réguler. Mais on peut avoir un autre réflexe qui est moins populaire, qui dit qu'il faut déréguler. Est-ce que le problème en Europe n'est pas qu'on a des réglementations, notamment comme ce sujet, qui sont trop lourdes, trop contraignantes, notamment pour les petits acteurs ? Est-ce que l'un des problèmes européens n'est pas que on n'a pas encore réalisé le marché unique du numérique, qui fait que nos entreprises n'ont pas un marché d'une taille immense pour se développer ? Je pense que le réflexe de la régulation, il n'est pas nécessairement le premier à avoir. En tout cas, il n'est pas le seul à avoir.
À votre avis, Isabelle De Silva ?
Je pense aussi que la régulation, il faut bien réfléchir avant de s'engager pour des outils nouveaux. Après, est-ce qu'il faut déréglementer ? Bon, il faudrait voir cas par cas. J'ai l'impression quand même que dans la protection des données, il y a quand même une forte attente des citoyens de règles supérieures à ce qu'elles sont aujourd'hui. Je crois aussi beaucoup à l'information et à la transparence. Je crois que dans la loi d'Axel Lemaire, il y avait le principe de loyauté des plateformes qui a été posé pour la première fois. La France était un peu leader sur ce plan-là. Donc il peut y avoir cette notion de diffuser mieux les pratiques sur Internet. Je crois que l'internaute aujourd'hui, il a besoin de repères. Il ne sait pas forcément ce qui se passe et surtout quelle utilisation est faite de ces données. Donc peut-être aussi rétablir la confiance. Ça passe pas forcément par des nouvelles règles, mais peut-être par des efforts de tous les acteurs pour être plus transparents et peut-être offrir plus d'options aux internautes.
Alors, restez avec nous, François Mombas aussi, qui nous parlait tout à l'heure de Amazon. Voilà, Amazon qui conquiert du terrain et avec une croissance de plus 40% chaque année. Vous nous rappeliez ça tout à l'heure, François Mombas, à la tête de la FEVAD. Et c'est vrai que de plus en plus d'utilisateurs commencent leur recherche de produits sur Amazon et non pas plus forcément sur Google. Il est le prochain sur la liste ou pas? Vous allez vous y intéresser, Amazon ou pas, Isabelle de Silva, l'autorité de la concurrence? Puis juste après, François.
Alors, dans notre avis, ce qu'on constate, c'est que Amazon a un potentiel pour être très important sur ce secteur, mais qu'il n'est pas aujourd'hui au même niveau que Google et Facebook. Alors, c'est vrai, comme il était dit, qu'ils ont une sorte de plateforme qui pourrait à terme, certains le pensent, remplacer presque le moteur de recherche de Google. C'est ce qu'on nous dit, mais c'est pas encore la réalité en France.
Si un accord, par exemple, se concluant entre Amazon et la grande distribution, est-ce que il faudrait que vous vous y intéressiez? Comment est-ce que vous travailleriez dans ce contexte? Comment réagir justement?
Alors là, nous avons une méthodologie qui est bien établie. Par exemple, on s'est prononcé tout récemment sur le rachat par Galerie Lafayette de La Redoute, un site de distribution physique qui rachetait un distributeur en ligne. Donc c'est quelque chose que nous savons faire. Et nous verrons si une opération de ce type devait se présenter, si Amazon a racheté un grand distributeur français. Est-ce que ça pose des problèmes de concurrence? On a les outils méthodologiques pour le faire et on appliquerait nos critères classiques sur l'effet que ça pourrait avoir en matière de concurrence horizontale, verticale et conglomérale.
François Mombas,
sujet, je crois, où l'autorité de la concurrence s'est intéressée à Amazon, c'est les conditions des contrats d'Amazon avec les marchands tiers.
Ouais.
Parce qu'Amazon héberge beaucoup de marchands, et étant énorme, évidemment, la négociation est marchands et Amazon. L'argument étant qu'Amazon fait tout, ce qui est vrai, pour satisfaire le consommateur, c'est-à-dire impose aux marchands qu'il héberge des conditions draconiennes en termes de respect des délais, de qualité produit, et interroge le client dès qu'il y a une vente, êtes-vous content du marchand que vous venez d'utiliser. Donc ça, c'est un fait. Le remplacement de Google par Amazon, c'est en cours aux États-Unis. Aux États-Unis, 40% des recherches de produits sont faites directement sur Amazon.
Et ben voilà.
Donc les gens, au lieu de taper d'abord Google, ensuite d'avoir Amazon qui arrive dans les trois premiers, vont directement sur Amazon pour les produits, ce qui donne une force énorme à Amazon aussi.
Et Xavier Romatet, Condé Nast.
Je voulais rajouter une chose, c'est que, et pour rebondir sur la régulation, dérégulation, etc., il y a un moment où le consommateur a son rôle à jouer.
Oui.
Et nous sommes tous schizophrènes, dans ce domaine comme dans beaucoup d'autres. En termes de citoyens, on est pour la protection des données. En termes de citoyens, nous sommes pour la protection du petit commerce. En termes de citoyens, nous sommes pour le tri, pour les déchets, etc. En termes de consommateurs, nous avons un comportement de consommateur qui est à l'inverse de nos convictions de citoyens. Et l'État ne pourra pas tout faire. L'Europe ne pourra pas tout faire. L'autorité de la concurrence ne pourra pas tout faire.
Donc, il y a un moment. Prise de conscience, éducation.
Éducation, prise de conscience.
Isabelle de Silva.
Amazon, voilà. c'est une entreprise qui est formidable. Ah. Sauf que si nous tous, nous favorisons Amazon, nous détruisons le e-commerce et le commerce français. Si tous nous sommes attachés à la protection des données, alors nous allons devoir modifier notre comportement sur Internet. Et donc là, je pense qu'il faut qu'à un moment, on éduque le consommateur et qu'on éduque le citoyen.
Erwan Lenoir.
Très, très rapidement, je ne sais pas pour juger si les arguments sont pertinents ou pas, mais je trouve qu'on a deux arguments qui justement viennent donner de l'eau au moulin de Google et Facebook. Le premier, est-ce que si Amazon va remplacer Google, pour Google, c'est un argument pour dire, vous voyez bien que ma position n'est pas si dominante que ça, en tout cas, ma position dominante n'est pas stable. Et si effectivement, c'est le consommateur qui choisit d'aller sur Amazon et sur Google et Facebook, les GAFA ont un bon argument pour dire, vous voyez bien que si on est là, c'est d'abord parce qu'on répond aux demandes des consommateurs. Donc on est dans des dynamiques qui sont ambivalentes, c'est ce qu'on montre depuis le début, et qui sont effectivement difficiles à montrer. Ce qui est intéressant, en dernier point, c'est que si vous prenez l'histoire économique, l'histoire de la régulation, à chaque transformation économique, soit au 19e, au milieu du 20e, vous avez des débats sur la régulation qui émergent. quand au 19e est apparu le chemin de fer, vous avez eu des débats sur la concentration de l'économie, vous avez eu des débats qui vous disaient déjà à l'époque ce que ça permettait le commerce à distance, qu'on allait tuer le petit commerce, et si vous reprenez les romans de Zola, il y a la même chose. Donc tout ça est passionnant intellectuellement et c'est un débat permanent. Et
les assistants personnels, vous allez vous y intéresser aussi, les Google et les Amazon, par exemple, voilà, si on dit il manque du beurre dans mon frigo, Google va nous proposer...
Je pense que c'est l'un des sujets de demain, parce que si l'assistant domestique devient la porte d'entrée du e-commerce, ça peut avoir des effets très forts sur la concurrence.
Donc l'autorité de la concurrence va s'intéresser aux assistants personnels.
C'est un sujet qu'on regardera dans les mois à venir.
Et vos autres combats, alors au-delà de Facebook, au-delà de Google, après le cartel du Lino l'automne dernier, ça serait qui le prochain? Ça se calme un peu dans les télécoms ou pas, sinon?
Alors, il y a toujours de l'animation dans le secteur des télécoms, mais on essaye vraiment de couvrir tous les secteurs de l'économie et aussi de développer des nouvelles technologies de détection pour rester toujours au plus près de ce que font les acteurs économiques.
Et les professions réglementées, ça va être quoi votre terrain de chasse en 2018? Quelles professions réglementées faut-il réformer? Par exemple, la santé, il y a façon de trouver des économies, quel statut toucher, à quelle profession s'intéresser?
C'est ce qu'on va regarder en 2018, donc voir s'il y a des propositions de réforme à faire au gouvernement. On ne part jamais avec des a priori sur il faudrait forcément réformer telle et telle profession. On a déjà un gros chantier devant nous qui est la mise en œuvre de la réforme de la loi Macron 2015 sur les professions réglementées. C'est déjà un beau succès.
Donc les notaires, puisque, vous y êtes déjà largement intéressés.
Cette réforme, elle entre dans les actes et je pense que chacun a contribué à ce que ça se passe bien. Donc on voit maintenant des nouveaux notaires ouvrir, mettre leurs plaques qui ont bénéficié de cette réforme qui était quand même une révolution puisqu'ils ont pu accéder à des offices sans avoir à financer la reprise d'un office. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit une nouvelle population de notaires qui arrive sur cette profession, donc une bouffée d'air dans cette profession.
Donc profession de santé, ça sera le chantier
sera le sujet de 2018,
ou là, vecteur d'économie éventuellement pour la Sécu, etc. Merci Isabelle De Silva.
Merci.
Présidente de l'autorité de la concurrence, François Monboise nous accompagnait, président de la FEVA, de la Fédération du e-commerce et de la vente à distance. Xavier Robata, à la tête de Condé Nast, donc Vogue, Glamour, Vanity Fair.
GQ et AD.
GQ et AD, bien sûr. La décoration, bien sûr. Et puis Erwan Lenoir, professeur en droit de la concurrence à Sciences Po, associé du cabinet Altermind. On revient très vite avec les décodeurs de l'écho sur BFM Business.
Les décodeurs de l'écho sur BFM Business.